Chapitre 28. Mais le succès avait perdu l'adresse de Martin et ses messagers ne venaient plus frapper à sa porte. Pendant 25 jours sans interruption, même le dimanche, il travailla à la honte du soleil, un essai de 30 000 mots. C'était un pamphlet contre le mysticisme de l'école de Maeterlinck, les marchands de rêves, qu'il attaquait au nom de la science positive, sans nier pour autant l'importance de l'esthétique dans la mesure où elle était compatible avec les faits avérés. Il poursuivit son attaque un peu plus tard dans deux essais plus courts intitulés « Les marchands de rêves » et « Le maître étalon de l'ego ». Et tous ces textes, affranchis au prix fort, commencèrent leur périple postal d'une revue à l'autre. Durant les 25 jours qu'il consacra à la honte du soleil, il vendit des broutilles pour 6,5 $. Une plaisanterie lui rapporta 50 cents, une autre vendue à un hebdomadaire satirique, 1 $. Deux bourrimées humoristiques lui valurent respectivement 2 et 3 $. Résultat, après épuisement de son crédit chez les commerçants, bien qu'il l'eût fait monter jusqu'à 5 $ chez l'épicier, sa bicyclette et son costume retournèrent chez le prêteur sur gage. Le loueur de machines à écrire se remit à lui réclamer de l'argent en lui rappelant avec insistance que d'après le contrat, toutes les traites étaient payables d'avance. Encouragé par ces quelques petites ventes, Martin reprit sa littérature alimentaire, une façon comme une autre de gagner son pain. Ses 20 historiettes refusées par le syndicat des journalistes étaient toujours empilées sous la table. Il les relut pour essayer de comprendre ce qui s'opposait à leur publication et chercha la recette du succès. Il découvrit que les historiettes publiées dans les journaux ne devaient jamais être tragiques, ne devaient jamais se terminer mal, ni contenir trop de subtilités stylistiques ou psychologiques. Elle devait toujours être pleine de beaux sentiments, comme les pièces qu'il avait applaudies du poulailler quand il était jeune, des sentiments du genre « Pour Dieu, mon pays est le tsar » ou « Je suis pauvre, mais je suis honnête ». Fort de ses enseignements, Martin s'inspira d'un conte bleu intitulé « La Duchesse » et en appliqua la recette, dont le principe était assez simple. 1. Un couple d'amants est brutalement séparé. 2. Un événement quelconque les réunit. 3. Ils se marient. La troisième partie était immuable, mais la première et la seconde admettaient une infinité de variantes. Les amants pouvaient être séparés par un malentendu, par un coup du sort, par des rivaux jaloux, par des parents courroucés, par des tuteurs sournois, par des intrigants, et ainsi de suite. Ils pouvaient être réunis par un acte courageux du héros ou de l'héroïne, par un changement d'humeur de l'un ou de l'autre, un aveu forcé ou volontaire des méchants tuteurs, des intrigants ou des rivaux jaloux, par la découverte d'un secret, par une brûlante déclaration d'amour, par un noble sacrifice, et ainsi de suite à l'infini. La meilleure technique consistait à amener la fille à déclarer sa flamme la première, et petit à petit, Martin découvrit ainsi d'autres astuces piquantes. Mais dans tous les cas, les cloches du mariage devaient retentir à la fin. Le ciel pouvait se déchirer, les étoiles se décrocher, il fallait impérativement que la noce fût célébrée. Pour les proportions, la recette prescrivait 1200 mots au minimum, 1500 au maximum. Il eut au fait d'élaborer une demi-douzaine de schémas de base auxquels il se référait systématiquement pour composer ses historiettes. Ces schémas étaient comparables aux tables dont se servent les mathématiciens, qu'on peut consulter de haut en bas, de droite à gauche et dans n'importe quel sens et qui, toujours, sans raisonnement ni calcul, donnent des résultats parfaitement exacts. Ainsi, grâce à ces schémas, Martin était en mesure de dresser le plan d'une douzaine d'historiettes qu'il remplissait ensuite selon l'inspiration du moment. Il s'aperçut qu'il pouvait en écrire une en moins d'une heure, juste avant de se coucher le soir. Comme il l'avoua plus tard à route, il les écrivait pour ainsi dire en dormant. Tout le travail consistait à dresser le plan, un travail purement mécanique. Il ne douta pas un instant de l'efficacité de sa recette, persuadé que ses deux premières tentatives se solderaient par des chèques. Et il ne s'était pas trompé, elles lui rapportèrent effectivement 2 chèques de 4 $ chacune au bout de 12 jours. Entre-temps, il fit de nouvelles découvertes alarmantes au sujet des revues. Malgré la parution du son des cloches dans le Transcontinental, aucun chèque n'arrivait. Martin en avait besoin et le réclama par écrit. Il ne reçut qu'une réponse évasive le priant d'envoyer d'autres œuvres. Il avait jeûné 2 jours en attendant cette réponse et dut gager à nouveau sa bicyclette. Il écrivit régulièrement, 2 fois par semaine, pour demander ses 5 $ et ne reçut que des réponses occasionnelles. Il ignorait que le Transcontinental battait de l'aile depuis plusieurs années, qu'il était très peu diffusé et ne survivait que grâce à des pamphlets de bas étage, des appels patriotiques et des publicités provenant d'annonceurs charitables. Il ignorait aussi que le Transcontinental était l'unique source de revenus du rédacteur et de l'éditeur, lesquels passaient leur temps à jouer au chat et à la souris avec les huissiers. Il ignorait enfin que l'éditeur avait consacré les $5 de sa nouvelle à des travaux de peinture dans sa maison d'Alameda, travaux qu'il effectuait lui-même à ses moments perdus parce qu'il était trop fauché pour payer un artisan au tarif syndical et que l'apprenti qu'il avait d'abord employé s'était rompu un os du cou en tombant de l'échelle et se trouvait actuellement à l'hôpital. Le journal de Chicago, qui lui avait promis $10 pour les chasseurs de trésors, ne fut pas plus loyal. L'article avait bien été publié, ainsi que Martin s'en était assuré à la salle de lecture centrale, mais le rédacteur ne donnait aucun signe de vie. Ses lettres restaient sans réponse, même les lettres recommandées. C'était du vol pur et simple, se dit-il. Pendant qu'il se serrait la ceinture, on lui chapardait sa marchandise, dont la vente était son seul moyen de subsistance. L'hebdomadaire Youth and Age fit faillite après avoir publié les deux tiers de son feuilleton de 21 000 mots et Martin dut faire une croix sur ses $16. Pour couronner le tout, il fut dépossédé d'une œuvre qu'il considérait comme l'une de ses meilleures, Le Pot. En désespoir de cause, il l'avait envoyé à The Billow, un hebdomadaire mondain de San Francisco qu'il avait choisi pour sa proximité. Comme son manuscrit n'avait que la baie à traverser, il pensait recevoir une réponse rapide. Deux semaines après son envoi, passant devant un kiosque, il vit sa nouvelle imprimée et illustrée à la place d'honneur. Il rentra chez lui, le cœur en joie, persuadé que cette parution lui vaudrait un gros chèque. La célérité avec laquelle elle avait été acceptée le réconfortait, mais il était très surpris de ne pas en avoir été informé à l'avance. Après deux semaines et demie de patience, la méfiance fit place au désespoir et il écrivit à The Billow pour s'étonner de n'avoir pas encore reçu son petit acompte. Même si ça ne fait que $5, se dit-il, ça me permettra d'acheter assez de haricots et de soupe de pois pour en écrire une demi-douzaine d'autres comme celle-là, sûrement aussi bonne. La réponse du rédacteur fut une petite merveille. « Nous vous remercions, disait-il, pour votre excellente contribution. Notre comité de rédaction l'a énormément apprécié et comme vous le voyez, nous l'avons publié immédiatement à la place d'honneur. Nous espérons sincèrement que les illustrations vous ont plu. En relisant votre lettre, il nous a semblé qu'il y avait un malentendu. Nous n'avons pas pour habitude de payer les manuscrits non sollicités, et le vôtre ne l'était pas. En recevant votre nouvelle, nous pensions évidemment que vous étiez au courant de nos pratiques. Nous regrettons beaucoup ce déplorable malentendu, et vous avez toute notre considération. En vous remerciant encore pour votre aimable contribution, et en espérant recevoir d'autres textes de vous dans un proche avenir, nous vous prions d'agréer, etc. » Il y avait un post-scriptum précisant que, bien que ce ne fût pas dans les habitudes de la maison, The Billow se faisait un plaisir de lui offrir un an d'abonnement gratuit. Après cette expérience, Martin écrivit en haut du premier feuillet de tous ses manuscrits « Soumis à votre tarif habituel ». Un jour, se disait-il pour se consoler, ils seront soumis à mon tarif habituel. Au cours de cette période, il devint perfectionniste. Il remania et peaufina la rue des mauvais coups, le vin de la vie, joie, le chant de la mer et d'autres œuvres de ses débuts. Ses 19 heures de labeur quotidien lui semblaient trop courtes. Il écrivait à profusion, lisait à profusion, oubliant dans le travail les souffrances que lui causait son renoncement au tabac. Le remède promis par Ruth, avec son étiquette flamboyante, était rangé dans le coin le plus inaccessible de son bureau. C'était surtout dans ces périodes de jeûne que son pétain lui manquait et, malgré toute sa volonté, l'envie de fumer ne cessait de le tenailler. De sa vie, pensait-il, il n'avait jamais fait plus grand sacrifice. Ruth ne se rendait pas compte des efforts que cela lui coûtait. Elle lui avait apporté le remède du pharmacien, acheté avec son argent de poche, et n'y avait plus pensé. Ses historiettes stéréotypées, malgré tout le mépris qu'elles lui inspiraient, avaient du succès. Elles lui permirent d'honorer ses dettes, de payer la plupart de ses factures et d'acheter un nouveau jeu de pneus pour sa bicyclette. Ses bluettes faisaient au moins bouillir sa marmite et lui laissaient du temps pour des œuvres plus ambitieuses. Les $40 qu'il avait reçus du White Mouse lui avaient redonné confiance. Il était convaincu que les magazines de premier ordre paieraient un auteur inconnu au même tarif, sinon plus cher. La seule question était comment entrer dans un magazine de premier ordre. Ses meilleures nouvelles Ses meilleurs articles et poèmes continuaient à faire la navette d'une rédaction à l'autre et, chaque mois, il voyait paraître des pages et des pages de prose plate et sans âme dans leur dernière livraison. Si un seul rédacteur, se disait-il parfois, voulait bien descendre de son piédestal pour m'écrire une ligne d'encouragement, même si mes œuvres sont insolites, même si elles ne cadrent pas avec leur politique éditoriale, elles doivent bien avoir au moins une petite étincelle de qualité, un petit quelque chose susceptible de les faire réagir. Et, inlassablement, il reprenait l'un ou l'autre de ses meilleurs manuscrits, comme « Aventure », et le relisait 10 fois pour tenter vainement de conjurer le silence des rédacteurs. Quand arriva le doux printemps californien, sa période de vache grasse prit fin. Depuis plusieurs semaines, l'étrange mutisme du syndicat des journalistes le préoccupait. Un jour enfin, 10 de ses historiettes lui furent retournées par le courrier, avec une note précisant que les stocks étaient saturés et que les achats de manuscrits seraient suspendus pendant quelques mois. Martin avait fondé beaucoup d'espoir sur ces 10 historiettes. Depuis quelque temps, le syndicat les lui payait $5 pièce et acceptait tous ses envois, si bien que Martin s'était mis à considérer cette littérature comme un fonds de commerce et avait tiré des plans sur la comète, s'imaginant déjà à la tête d'un compte bancaire de $50. Et ainsi commença, du jour au lendemain, sans avertissement, une période de vache maigre au cours de laquelle il continua à vendre ses premières œuvres à des revues qui ne payaient pas et à soumettre ses dernières à des revues qui n'achetaient pas. Il reprit donc le chemin de la boutique de prêt sur gage, car les quelques plaisanteries et autres vers de mieliton qu'il vendait à des hebdomadaires new-yorkais ne suffisaient pas à le faire vivre. Ce fut à cette époque qu'il se mit à écrire à plusieurs grandes revues mensuelles et trimestrielles pour leur demander des explications. On lui répondit que les articles non sollicités étaient rarement pris en considération et que la plupart des textes publiés étaient des travaux de commande effectués par des spécialistes faisant autorité dans leur domaine.